Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Togo, sélection du Reader's Digest et Urbania. Au programme, faire des choix vous paralyse. Voici pourquoi. Cancer du sein, 9 symptômes autres que les bosses qu'il faut connaître. Bien s'entourer, c'est bon pour la santé. Et que faire quand on a abandonné ses bonnes résolutions du nouvel an? Bonne écoute!
Faire des choix vous paralyse? Voici pourquoi. Un texte de Geneviève Beaulieu-Pelletier paru le 17 mai 2022 dans le magazine Togo. Hésiter. Ne pas savoir quoi choisir. Attendre et attendre encore avant de prendre une décision. Telles sont des manifestations potentielles de l'indécision. La psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier nous aide à voir clair sur les raisons et les conséquences de l'indécision. Trois réactions face à l'indécision. Lorsqu'on fait preuve d'indécision, on peut avoir tendance à réagir de différentes façons. 1. Éviter de choisir. On évite d'avoir à prendre la décision. On procrastine en repoussant à plus tard le moment du choix où on ne choisit tout simplement aucune option, comme si notre esprit était figé et qu'on ne pouvait se positionner. 2. Accepter toutes les options. Une autre réaction peut être celle de ne refuser aucune option, difficulté à dire non, de ne pas mettre de limites ou de tenter de satisfaire tous ses besoins. On peut craindre aussi de blesser une autre personne en refusant une option. Alors on accepte pour éviter de se sentir coupable. Accepter toutes les options est aussi une façon utilisée pour se garder les portes constamment ouvertes pour la suite. Et si, comme on ne choisit pas, alors rien n'est fermé. Mais en même temps, rien n'est choisi. 3. Se fier à l'opinion d'une autre personne pour choisir. L'indécision peut aussi nous mener à sonder le regard social, c'est-à-dire à rechercher l'approbation des autres. On expose son choix à une autre personne et on tente de savoir ce qu'elle choisirait pour guider son choix. Certaines personnes laissent même l'extérieur déterminer la suite sans avoir eu à prendre une décision. Conséquences de l'indécision. L'indécision amène son lot de conséquences. Ne pas choisir et accepter trop d'options peut mener à une surcharge sur différents plans. À force d'en prendre trop sur nos épaules en ne choisissant pas, on accumule des tâches professionnelles, des responsabilités, des activités, des contraintes d'horaire, des relations. La charge devient trop grande au quotidien et devient une pression. À la longue, on s'épuise physiquement et émotionnellement. Ne pas choisir peut aussi impliquer que l'on nie nos propres besoins. En acceptant des options par pression, pour éviter de blesser une autre personne ou encore par culpabilité, on poursuit des objectifs qui vont à l'encontre de ce qui nous intéresse vraiment et qui ne nourrissent pas nos besoins psychologiques essentiels à notre bien-être. En découle souvent un mal-être et une démotivation. En effet, difficile de garder la motivation quand on n'a pas réellement envie de poursuivre un but. Choisir un deuil à faire. Faire un choix implique de faire un deuil, et même bien souvent des deuils. Dans l'indécision, on se retrouve face à cette angoisse de la perte. On ne veut pas perdre des options, des possibilités, des ouvertures éventuelles. Donc, on ne choisit pas ou on accepte tout. On ne perd donc rien. Choisir, c'est mettre de côté certaines options. On renonce ainsi à réaliser des désirs et à satisfaire les attentes des autres. Renoncer suppose donc inévitablement la perte du ou des choix non retenus. C'est pourquoi on parle de deuil. C'est donc un travail sur le deuil qui doit s'opérer pour sortir de l'indécision. Le deuil peut se jouer sur différents fronts. En voici quatre. Deuil de nos idéaux. On porte tous en soi des idéaux de ce qu'on devrait être et atteindre dans la vie. Des attentes et exigences de perfection, d'équilibre, de force qui sont bien souvent valorisées socialement. Pour faire un travail sur le deuil, il importe de revisiter ces attentes et exigences qui nous influencent dans nos choix et nous maintiennent dans l'indécision. Deuil de ce qui ne sera pas. C'est aussi tout un travail d'assumer que ce qu'on ne choisit pas n'arrivera tout simplement jamais ou le sera seulement un jour. C'est la perte d'une possibilité, de ce qui aurait pu exister. Deuil de ce qu'on avait espéré et attendu. On a attendu souvent très longtemps pour atteindre un objectif, pour satisfaire un besoin ou pour nouer une relation nourrissante avec une personne. On a espéré. Beaucoup. Renoncer est alors difficile. Deuil de la reconnaissance de l'autre. Si en faisant un choix, on a l'impression qu'on va blesser ou décevoir une autre personne, on fait donc face à la perte de l'amour, de la gratitude ou de la reconnaissance qu'on recherchait de cette façon dans son regard, ses gestes, ses paroles. Dans ce travail sur le deuil, il est avant tout important de prendre conscience de nos craintes, de nos idéaux et de déterminer nos besoins pour mieux choisir ce qui nous correspond réellement. Pour comprendre là où les pertes auxquelles on est confronté, on doit se laisser vivre la tristesse et les angoisses que les choix non retenus font émerger. Choisir, ça peut prendre plus ou moins de temps selon ce qui émerge en nous. On y va à notre rythme et sans se juger. On n'a pas à se critiquer d'être figé dans l'indécision. Au contraire, quand on comprend que l'indécision implique un réel défi émotionnel lié au deuil face à la perte, on peut davantage développer un regard bienveillant envers nous-mêmes. Et si on se trompe dans nos choix? On doit relativiser la perte anticipée. Bien souvent dans la réalité, on peut revenir sur nos choix si on se rend compte en chemin que le choix fait n'était pas satisfaisant finalement. On peut alors prendre une nouvelle direction. Dans certains cas, il ne sera réellement plus possible de revenir sur un choix fait. Il y a moyen de faire surgir de nouvelles options avec créativité et d'envisager des options auxquelles on n'avait pas réfléchi au départ. On prend ainsi un chemin différent qui nous mène vers une nouvelle direction, mais qu'on peut rendre nourrissant psychologiquement. Il ne reste alors plus qu'à oser nous lancer et voir où cela va nous mener. Sans pression, en nous laissant l'opportunité d'apprendre de nos choix et la possibilité de nous ajuster aux besoins. C'était « Faire des choix vous paralyse, voici pourquoi ». Un texte de Geneviève Beaulieu-Pelletier paru le 17 mai 2022 dans le magazine To Go. Cancer du sein. 9 symptômes, autres que les bosses, qu'il faut connaître. Un texte de Lisa Milbrand, paru le 30 septembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Une masse ou une bosse sont, pour le cancer du sein, les symptômes plus connus. Mais il en existe d'autres qui devraient vous inciter à consulter un médecin sans délai. Premier symptôme. Fossette. On a déjà vu par le passé cette publication virale dans les réseaux sociaux qui présentait le symptôme d'une femme atteinte du cancer du sein. Une petite fossette sur le bord de la poitrine. C'est le type de signe de tumeur que l'on rate facilement pendant l'auto-examen mammaire mensuel. Il s'agit de fossettes très délicates sous le sein que l'on peut aisément laisser passer quand on est à la course le matin, raconte Lisa Royle de Manchester, en Grande-Bretagne, qui a partagé sa photo sur Facebook. La docteur Anita Johnson, directrice médicale en oncologie chirurgicale du sein des cancers Treatment Centers of America à Atlanta, renchérit. Toute fossette ou rétractation de la peau sur vos seins devrait être examinée par votre médecin. Deuxième symptôme. Irritation de la peau. Une irritation de la peau peut avoir diverses raisons, notamment un soutien-gorge mal ajusté, des boutons de chaleur ou une dermatite de contact. Dans de rares cas, il pourrait s'agir d'un symptôme de cancer du sein. Si vos seins présentent des rougeurs inattendues, de l'enflure, de l'irritation, des démangeaisons ou des éruptions cutanées nouvelles ou persistantes, consultez votre médecin. Conseille la Dr. Jessica Shefford, gynécologue au Baylor Scott & White Women's Health Group de Dallas. Troisième symptôme, écoulement des mamelons. Les écoulements mammaires sont choses courantes pour les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes. Mais chez les autres femmes, certains types d'écoulements devraient être examinés par un médecin. Un écoulement mammaire opaque, de teinte verdâtre ou jaunâtre, ou qui contient du sang, pourrait être un symptôme de cancer du sein, souligne la Dr. Shefford. Et encore plus s'il est spontané, ce qui le rend davantage préoccupant. Quatrième symptôme, taches de rousseur. Des taches foncées ou taches de rousseur inhabituelles ne sont pas la seule bonne raison de voir un dermatologue, mais pourraient également annoncer une forme plus rare et plus agressive de cancer du sein, le cancer du sein inflammatoire, CSI, prévient la Dr. Johnson. En cas de taches de rousseur qui se multiplient rapidement, consultez votre médecin. Mais pas de panique, ce type de cancer est extrêmement rare. Cinquième symptôme, taches rouges ou ecchymoses. D'autres signes de CSI peuvent être des taches rouges ou des marques sur la peau ressemblant à des ecchymoses, ajoute la Dr. Johnson. Si c'est votre cas et qu'elle persiste plus de 2 ou 3 semaines, faites-vous examiner. Mais là encore, rappelez-vous que ce type de cancer est rare. Plusieurs sortes de taches rouges sur la peau, comme les angiomes rouges cerises, sont totalement inoffensives. Il y a 2 ans, Jennifer Cords a noté une mystérieuse éruption sur l'un de ses seins. Sa mammographie ne présentait aucun signe de cancer. Comme la tache ne disparaissait pas, même après des antibiotiques, elle a passé une biopsie qui a révélé un CSI. Sixième symptôme, changement de forme des mamelons. Les mamelons ne changent normalement pas de forme, de taille ni de couleur, sauf durant la grossesse. Mais si vous constatez un quelconque changement, y compris une rétraction ou un retournement du mamelon vers l'intérieur, il faudrait vous faire dépister pour le cancer du sein, conseille la Dr. Shefford. Des brûlures et des démangeaisons des mamelons pourraient annoncer une maladie de Paget du mamelon. Une forme rare de cancer, explique la Dr. Johnson. Cela touche habituellement le mamelon et la peau qui l'entoure, aréole. La peau des mamelons peut paraître squameuse ou écailleuse, ou encore croûteuse, suintante ou épaissie sur le mamelon ou l'aréole, ou les deux à la fois. Cela peut aussi provoquer une sensation de picotement ou de brûlure, ajoute-t-elle. Il existe de nombreuses causes non cancéreuses pour des seins squameux ou qui picotent, mais il vaut toujours mieux vous assurer de leur cause. Faites part de toute inquiétude à votre médecin, conclut-elle. Septième symptôme, changement de texture de la peau. Un changement de la peau des seins pourrait annoncer un problème. Le cancer du sein provoque parfois un changement dans leur texture, précise la Dr. Shefford. Surveillez toute rougeur persistante ou peau granuleuse comme une orange. C'est le signe d'une inflammation du tissu mammaire provoquée par des cellules cancéreuses qui bloquent les petits canaux lymphatiques dans le sein et entraînent l'accumulation de liquide. Huitième symptôme, gonflement ou sensibilité. Le gonflement ou la sensibilité des seins sont courants chez les femmes à certains moments de leur cycle menstruel et peuvent même annoncer une grossesse précoce. C'est pourquoi les femmes ne l'interprètent pas souvent comme un signe avant-coureur de cancer du sein. Si l'un des seins semble particulièrement hypertrophié ou gonflé, il vaudrait mieux le faire examiner, conseille la Dr. Shefford. Vous pourriez ne pas sentir une bosse située en profondeur, mais constater un gonflement. Une masse dans le sein peut vous échapper, mais sous l'aisselle, ce pourrait être un ganglion lymphatique hypertrophié, signe d'un cancer du sein qui commence à se propager, ajoute-t-elle. En faisant votre auto-examen mensuel, vérifiez toujours sous l'aisselle s'il y a un gonflement des ganglions lymphatiques. Neuvième symptôme, changement de taille et de forme des seins. De l'embonpoint, des changements dans le cycle menstruel, une grossesse ou l'allaitement peuvent avoir un impact sur la taille et la forme de vos seins. Mais si vos seins changent de forme indépendamment de ces facteurs et de façon soudaine, cela pourrait être un signe de cancer du sein que vous devriez faire dépister par votre médecin, explique la Dr. Johnson. Comme cela peut se produire une semaine avant vos menstruations, attendez la semaine subséquente pour vérifier si tout est revenu à la normale. Quand cela se produit dans les deux seins, il est peu probable qu'il s'agisse d'un cancer. C'était cancer du sein, 9 symptômes autres que les bosses qu'il faut connaître. Un texte de Lisa Milbrand, paru le 30 septembre 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Bien s'entourer, c'est bon pour la santé. Un texte de Jacinthe Bordeloux, paru le 23 janvier 2023 dans le magazine To Go. Il est bien connu que l'adoption de saines habitudes de vie permet de prévenir les maladies chroniques et d'améliorer la santé. Bien s'alimenter, bouger chaque jour, cesser de fumer et gérer son stress font partie des habitudes qu'on connaît le plus. Mais saviez-vous que les relations sociales contribuent aussi à une santé optimale? Les relations humaines, un atout pour la santé. La docteure Jacinthe Bordeloux a développé un intérêt pour la médecine du mode de vie qui mise sur de saines habitudes pour aider les patients et patientes à prendre leur santé en main. Avec mes années de pratique, je vois que les médicaments ne font pas de miracle. Je crois que ça pourrait être bénéfique de changer notre approche, explique la médecin de famille installée à Trois Pistoles. Le but, c'est non seulement de traiter la maladie, mais également de promouvoir une bonne santé. La médecin s'intéresse particulièrement aux relations sociales. On a bien vu avec la pandémie à quel point les contacts humains étaient importants. Être en interaction avec d'autres fait partie de nos besoins élémentaires. Nos interactions sociales aident à réduire notre niveau de stress et donnent du sens et un but à nos vies. Le fait d'avoir des relations de qualité est notamment associé à une réduction du risque de mortalité, de symptômes dépressifs, de troubles de l'anxiété et du déclin des capacités cognitives. De bons liens sociaux aident en outre à réduire la tension artérielle ainsi que le développement des maladies cardiovasculaires, des AVC et de certains cancers, énumère la Dr. Bordeloux. À l'inverse, l'isolement social serait associé à un risque de mortalité prématurée d'environ 30 %. Quoi faire quand la solitude devient trop présente? Les effets de la solitude et de l'isolement social sur la santé seraient aussi néfastes que d'être obèse, d'être sédentaire ou de fumer. Comment créer ou renforcer des relations? Pour établir des relations significatives qui contribueront à la santé, on peut faire du bénévolat pour rencontrer de nouvelles personnes, s'inscrire à un club de lecture, faire du jardinage communautaire, participer à des corvées de nettoyage, interagir avec des personnes qu'on connaît moins, mais qu'on croise souvent comme les collègues au travail, les gens du voisinage, les commerçants et commerçantes. Dresser la liste des personnes qui sont importantes pour nous et s'engager à les appeler une fois par semaine. Il n'y a pas de recette magique, chacun y va selon ses champs d'intérêt. L'important, c'est d'y prendre plaisir, insiste la Dr. Bordeloux. C'était « Bien s'entourer, c'est bon pour la santé », un texte de Jacinthe Bordeloux, paru le 23 janvier 2023 dans le magazine Togo.
Que faire quand on a abandonné ses bonnes résolutions du Nouvel An? Un texte de Pierre-Luc Racine, paru le 15 février 2023 dans Urbania. 6 semaines. Ça ne fait que 6 semaines que l'année est commencée et vous vous sentez proche d'avoir abandonné vos bonnes résolutions. Mais ne vous flagellez pas trop. Dites-vous que, statistiquement, 80% des résolutions ont déjà été larguées à cette date-ci. Même la grande majorité d'entre elles ne tiennent même pas jusqu'au 19 janvier. Vous êtes dans la majorité. Bon, maintenant, on fait quoi? La première chose, c'est d'accepter d'avoir foiré. Ensuite, de reconnaître qu'on a le choix. On peut se trouver poche à l'infini d'avoir abandonné nos bonnes intentions après seulement 10% de l'année découlée, ou se concentrer sur le 90% devant nous. Prenons plutôt cette option. Identifier le pourquoi. C'est tout à fait normal que des résolutions ne tiennent pas parce qu'on a décidé arbitrairement de se les imposer le 1er janvier à minuit et une seconde. Psychologiquement, cette ligne de départ imaginaire ne fait aucun sens à part « parce que ». Je ne me souviens pas avoir gagné un débat contre quiconque en utilisant l'argument « parce que ». Dans ces circonstances, c'est logique qu'on peine à se convaincre soi-même avec un « parce que ». Lorsqu'on identifie le « pourquoi », c'est bon de reculer d'un pas pour ne pas le mélanger avec le « comment ». On va souvent penser que la résolution d'être moins souvent sur mon sel est explicite, mais ce n'est pas un objectif, c'est le moyen. Le véritable but ici pourrait être de perdre moins de temps à procrastiner ou encore à réduire mon temps d'écran. De facto, ça devient plus sensé d'être moins souvent sur son sel si on garde notre « pourquoi » en tête. Prioriser ses objectifs. Nous n'avons que 24 heures dans une journée, 2 bras et 2 jambes quand on est chanceux ou chanceuse. Il ne reste plus tant de temps que ça après le boulot, dodo, métro et métro. Admettons que vous preniez le métro pour aller faire votre épicerie chez Métro. Tout ne peut pas se faire dans une seule année. Mettez plutôt l'emphase sur un objectif que vous pourrez décliner en plusieurs résolutions. Par exemple, arrêter de dépenser sur des niaiseries pourrait engendrer comme résolution de retirer votre carte de crédit de la mémoire de votre téléphone, d'enlever vos sites préférés de vos favoris et de réduire votre consommation d'achat en ligne à telle ou telle fréquence. Vous mettez les chances de votre côté en misant sur un seul but. Et puis au moins, vous n'aurez plus l'impression que vos ressources se libèrent grâce à un génie sorti tout droit d'une lampe magique. D'ailleurs, quelqu'un aurait un billet de trop pour Aladdin qui s'en vient à Montréal? Vous écoutez « Que faire quand on a abandonné ses bonnes résolutions du Nouvel An », un texte de Pierre-Luc Racine paru le 15 février 2023 dans Urbania. Faire un plan réaliste. Quand on y pense un instant, on prend souvent des résolutions à l'approche du temps des fêtes, alors qu'on voit les vacances s'approcher et la belle vie en mitoufler. On a tendance à mettre des lunettes roses concernant l'année à venir. Lorsque je parle de se donner un moment de préparation, c'est plutôt pour mettre sur papier les moyens que nous avons à notre disposition. En fonction de vos résolutions, ça tourne généralement autour de l'argent et du temps. C'est pour cette raison que la résolution « Je vais aller au gym 4 fois par semaine, même si je n'y suis jamais allé de mon existence » s'effondre rapidement. Nous n'avons pas pensé à l'investissement en temps que cette décision engendre. Pour quelqu'un qui a décidé de prioriser le gymnase économique cette année, laissez-moi vous dire que ça en bouffe de mon temps. Autant que moi qui bouffe des patates après mon entraînement parce que j'ai trop faim. Chiffrer ses résolutions. Se lancer dans une nouvelle résolution sans y réfléchir 2 coups d'avance fait en sorte que tout reste abstrait dans notre tête. Nous n'avons pas de barème de succès ou d'échec. Comment savoir si nous faisons fausse route, si nous n'avons pas d'itinéraire? Si le temps ou l'argent ne nous permettent pas d'en faire autant qu'on aimerait, ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons toujours en faire un petit peu moins que désiré, mais bien le faire. Ensuite, mettre des nombres là-dedans. Ainsi, cuisiner une nouvelle recette une fois par semaine motivera davantage que cuisiner plus souvent à la maison. En fonction de votre routine, vous pouvez aussi dédier une plage horaire précise à votre nouveau projet. Si vous êtes capable de fonctionner ainsi, vous avez tout mon respect, j'en suis personnellement incapable. Organiser son environnement. Déjà qu'on se force à faire quelque chose qui ne nous vient pas naturellement, nous devons mettre toutes les chances de notre côté et retirer les obstacles. Après tout, nous tentons de créer une habitude et personne n'a envie de se faire suer au quotidien à cause de cela. Sinon, ce sera la meilleure technique pour que cette habitude devienne du passé. Réarrangez donc votre espace afin de mettre en évidence tout ce dont vous avez besoin rapidement. Personne ne va passer le balai plus souvent s'il est caché dans le garde-robe à l'extérieur de la maison, surtout pas en hiver. Ramenez-moi ça en dedans avec un accès rapide. La dernière étape est d'en parler à une proche. Vous pouvez aussi en parler à une ennemie, mais je suggère fortement quelqu'un qui vous aime. Ainsi, notre promesse envers soi devient aussi une promesse envers une autre personne qui veut notre bien. Cette personne prendra de nos nouvelles et nous gardera au pas. Voilà donc pour vos prochains objectifs. Identifiez les vraies raisons sous-jacentes à vos résolutions. Trouvez une façon réaliste de les mettre en marche. Mesurez votre progrès au travers de l'année. Bonne chance, mais vous n'en aurez pas besoin après tous mes conseils. C'était « Que faire quand on a abandonné ses bonnes résolutions du nouvel an », un texte de Pierre-Luc Racine paru le 15 février 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.